Bonjour Immacula, bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, bonjour la belle-mère, bonjour Gilles, Buonanotte, Sampawende. Parler. Bonjour Marie-André. Bonjour à mon père, bonjour à ma mère. Ni hao, Yaoi. Janine, bonjour, bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée hier. On annonce de la pluie pour les prochaines heures, voire pour quelques jours en fait, je crois. Il fait un peu frais ce matin. Shalom la belle-mère. Merci Janine, à vous de même. Lucie, bonjour. Merci, soyez bonne, bénie aussi, Lucie. Salutations à Lynn, si vous lui parlez. Bonjour Guy, bon jeudi à toi aussi. Sois béni. Encore 5 ou 6 minutes avant qu'on ne débute officiellement. Alors, ceux qui aiment la grosse chaleur du début juin, vous n'êtes pas gâtés cette année. Juin commence même un peu frisquet. Toutefois, ceux qui ont des allergies, vous n'êtes vraiment pas gâtés. Et je parle en connaissance de choses, connaissance de cause. Je prends des antihistaminiques. À chaque année depuis le mois d'avril par là, début avril par là. Et cette année avec l'histoire des abeilles et puis la pollinisation, donc ils ont laissé pousser tous les pissenlits, Ça vole de partout maintenant. Ceux qui souffrent d'allergies ne sont vraiment, vraiment pas gâtés. Marie-Huguette, bonjour. Bonjour à Leïka et à Gaëlle. Denise, Gérard, bonjour. Je voyais vous connecter ces derniers jours, mais un peu après les salutations. Donc, bien content de vous saluer de vive voix ce matin. Marie-Marthe, bonjour. Nathalie, bonjour. Denise de Laval, bonjour. Gilles, je sais que tu es à l'écoute ce matin. Pourrais-tu me confirmer si la rue va être barrée ce dimanche? Il me semble que j'ai vu des annonces à ce sujet-là, comme quoi le boulevard Saint-Laurent serait barré ce dimanche. Comme ça, on peut aviser les gens si c'est le cas. Bonjour à notre sœur Linda, mes amis qui nous regardent depuis l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse, Linda. Pascal, bonjour. Gilles, si c'est le cas, tu peux toujours m'envoyer un message texte, un texto juste à l'instant, et puis je vais le voir apparaître. Donc je pourrais aviser les gens en début ou en fin de séance, déjà ce matin. Buenos días, hermana Flori, hermano Luis. Encore une minute et on va commencer. Je m'excuse si on rencontrait quelques petits pépins de connexion. Tout à l'heure, la connexion s'est arrêtée brièvement, où l'électricité a fait quelques soubresauts. Donc, ça pourrait couper. Donc, le frère Gilles nous dit qu'il a vu des panneaux, il a vu des blocs de ciment, mais qui n'est pas sûr, donc il va vérifier, il va nous tenir au courant. Il me semble que j'ai vu quelque chose concernant le 5 juin ou un truc pareil. C'est le tour de l'île cette semaine que ce dimanche que dit ma mère. Il me semble que c'est quelque chose comme ça que j'ai pu voir effectivement. Donc on vous tiendra au courant dans les prochaines heures ou même demain pour vous dire ce qu'il en est. Mais je vais faire mes recherches de mon côté aussi. Mais il me semble qu'effectivement, il y a de l'embouteillage à. Il va y avoir de l'embouteillage autour de l'église, peut-être des rues bloquées autour de l'église, concernant le tour de l'île. Mais je vous tiens au courant. Alors prions et on débute ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, pour cette grâce que nous avons de nous réunir même à distance les uns des autres pour recevoir une nourriture, un breuvage pour notre âme, pour notre esprit. Et surtout Seigneur, une dose des saintes Écritures que tu as laissées en héritage pour chacun d'entre nous. Donc nous te bénissons, nous te demandons d'intervenir, de prendre contrôle de chacune des paroles qui vont être prononcées, que tu puisses aussi, Seigneur, disposer de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, pour que cette parole trouve un terrain qui soit adéquat et qu'elle puisse, Seigneur, s'enraciner en nous, croître et être amenée à porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Bénis ma sœur, bénis mon frère, si quelqu'un s'est réuni avec nous ce matin ou écoute cet enseignement dans le futur avec un fardeau qui serait trop lourd pour se concentrer sur toi. Nous te demandons d'étendre ta main, d'alléger, Seigneur, tout fardeau et de permettre, Seigneur, à ce que cette parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs et puisse, Seigneur, apporter tous les changements, les transformations que tu désires. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous toujours dans Jérémie au chapitre 33. Vous savez que c'est le texte qu'on étudie maintenant depuis 2 semaines et demie. On termine cette semaine, cette série d'enseignements intitulée Les leçons de la prison. Alors je lis pour vous Jérémie 33 et je vais relire une ou deux fois par la suite le verset 3. Donc le verset 1 nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je répète le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vais juste défaire le câble, comme ça j'ai un peu plus d'espace. Voilà. Alors on se rappelle que ce texte est donné dans un contexte ou dans une période de l'histoire d'Israël assez sombre. Israël est déjà divisé en deux royaumes, le royaume du nord qu'on a continué à appeler Israël, le royaume du sud qu'on appelle Juda, et sur Juda il y a un roi, Sédécias, qui règne depuis déjà quelques années, et il fait ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Le peuple à sa suite fait de même. Alors le Seigneur utilise un prophète, Jérémie en l'occurrence, pour aviser le peuple que le châtiment de l'Éternel va tomber et que le roi Sédécias va être renversé et que pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'années, voire de décennies, Babylone va régner sur le royaume de Juda. Bien entendu, ces paroles déplaisent au roi Sédécias. Et que fait-il pour faire taire ces paroles? Il prend Jérémie et l'emprisonne. Et l'objectif qu'on avait dans cet enseignement des 3 dernières semaines, c'était de voir que Dieu est toujours à l'œuvre à travers nos moments difficiles et que nous pouvons toujours apprendre quelque chose, même dans nos moments ardus, voire dans les moments qu'on comparerait, nous, à un séjour dans un cachot, dans une prison sombre. La première semaine, on a essentiellement vu, en lien avec le verset 1, que Dieu parlait encore. Jérémie est en prison, mais Dieu vient s'adresser à lui. Dans la deuxième semaine, on a vu que Dieu dépasse même la question de parler et qu'il agit, notamment en disant que c'était lui qui fait ces choses, c'est lui qui les conçoit, c'est lui qui les exécute. Et on voit que le Seigneur, même dans nos moments difficile se tient à nos côtés, non seulement pour nous parler, nous réconforter, nous rassurer, mais de surcroît cela pour entrer en action. Dans la troisième semaine, les termes qu'on étudie cette semaine, les termes, les mots, ce sont des mots juridiques. Ce sont des actions que vont poser un certain corps de métier tout particulier avec laquelle Dieu va s'identifier ou avec lequel Dieu va s'identifier dans ce passage-ci. Je vous rappelais hier que le fait de mettre quelqu'un en prison à l'époque était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Tu déposais une plainte, tu levais un doute sur quelqu'un, la personne était emprisonnée, c'était à elle, avec le temps, si la possibilité lui était donnée, qu'elle puisse se justifier et prouver qu'elle était innocente. Et c'est dans un tel contexte que Jérémie va être emprisonné. Nous, on connaît l'histoire au complet puisque on a le texte devant nous. On sait que Jérémie a été arrêté, a été confiné dans une cellule ou dans un cachot, tout simplement parce qu'on voulait le faire taire. Tout simplement parce que son activité ministérielle, son action ministérielle déplaisait au roi et ne proclamait pas ce que le roi avait envie d'entendre ou ce que le peuple avait envie d'entendre. Donc on va emprisonner injustement Jérémie et lui se retrouve certainement, comme un bon nombre d'entre nous à qui c'est déjà arrivé, se retrouve dans un moment où il se pose assurément des questions sur la justice de Dieu, des questions sur la protection de Dieu, des questions sur l'intervention de Dieu à son égard, des questions sur le fait que ça vaille ou non la peine de servir notre Dieu dans des moments difficiles. Et là, le Seigneur lui apparaît et lui dit « Invoque-moi ». Et on a vu ce terme à travers les deux dernières journées, invoquer, qui voulait dire appeler à l'Éternel, avec toutes les émotions, avec le trop-plein même d'émotions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, mais faire appel à l'intervention divine. Un peu comme un prévenu, un accusé, va se prévaloir des services d'un avocat pour le protéger et le représenter à travers la cour ou à travers le procès qui pourrait s'initier. Et ici, Dieu lui dit, dans un terme très légal, invoquer, appelle-moi ou fais appel à moi. Alors Dieu veut effectivement qu'on se tourne vers lui au lieu d'essayer de se dépêtrer un peu par nos propres moyens, par nos propres tentatives futiles et assurément moins efficace que celle du Seigneur. Il dit, mais pourquoi tu perdrais du temps à essayer de chercher à droite ou à gauche? Fais appel à moi. Je ne sais pas dans quelle situation ceux qui nous écoutent ce matin peuvent se retrouver, mais assurément, on est tous passés par des moments difficiles et on passera tous encore par des moments difficiles, des moments où le doute vient frapper à notre porte, des moments où le découragement peut frapper à notre porte. Et le Seigneur nous dit, au lieu d'essayer de te défaire de cette situation et au lieu d'essayer de te sortir de cette situation par toi-même, fais appel à moi pour que je puisse intervenir à ton profit, intervenir auprès de la cour en ta représentation. Et il va dire, invoque-moi et je te répondrai. Je disais hier que le Seigneur est toujours présent lorsqu'on l'invoque. Le Seigneur est toujours présent lorsqu'on fait appel à lui. Son action peut diverger de ce qu'on aurait voulu. Sa stratégie juridique, sa stratégie devant la cour peut différer de ce que nous aurions voulu, mais le Seigneur est toujours présent lorsqu'on fait appel à lui, lorsque nous le prenons comme notre avocat, lorsque nous le prenons comme notre défenseur, comme notre pourvoyeur, lorsqu'on le prend comme ce juriste conseil à nos côtés, il répond toujours présent. Il ne nous fait pas faux bond. Il ne nous pose pas un lapin, il ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, mais il est toujours présent. Il dit, et je t'annoncerai, le terme nagad qu'on a fini par voir hier, qui veut dire faire savoir ou faire connaître les choses. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa gibecière, ou plutôt dans son attaché-caisse d'avocat, puisque c'est plutôt ça qu'ils ont habituellement, il a toute l'argumentation nécessaire. Et une argumentation qui est basée sur une sagesse irréfutable. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses en tout temps, en tout lieu. Et donc la manière dont il va présenter les choses, personne ne pourra le contredire, personne ne pourra lui dire de se taire, personne ne pourra faire objection à ses propos. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'il habite est irréfutable. Et voilà pourquoi il est important de se prévaloir des services de notre Dieu en tant qu'avocat pour nos vies, parce que nous savons qu'il est le meilleur parmi les meilleurs et qu'il n'y en a aucun qui lui arrive même à la cheville. Et aujourd'hui, on continue en disant, il va nous annoncer de grandes choses, de grandes choses. Le terme grande, le terme gadol en hébreu, G-A-D-O-L. Gadol, G-A-D-O-L, qui nous parle de quelque chose qui est grand, qui est nombreux, qui est étendu, qui est intense, qui est important et qui se distingue des autres choses. Alors hier, on disait que la sagesse de Dieu était irréfutable. Ce matin, on dit que la sagesse de Dieu est aussi incommensurable, qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de limitation. Notre Dieu connaît toutes choses et connaît toutes choses complètement. Le sujet d'action de notre Dieu s'étend de l'infini à gauche jusqu'à l'infini à droite, de l'infini vers le haut à l'infini vers le bas. Il n'y a pas de limite à la connaissance de notre Dieu. Voilà pourquoi, encore une fois, il est intéressant de faire appel à lui, non seulement son raisonnement est sage, non seulement son raisonnement est irréfutable, mais la portée de son raisonnement est infinie. Il n'y a pas un sujet que Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas un individu que Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas une circonstance dans l'histoire de l'humanité, voire dans l'histoire précise d'un individu que Dieu ne connaît pas. Alors Dieu n'oublie pas tout ce qui s'est passé dans notre vie, n'oublie pas les différents intervenants dans notre vie, n'oublie pas les différents éléments qui ont composé, qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand il se présente à notre défense, il se présente armé d'une connaissance incommensurable, contrairement à quelque autre avocat. Même si on rassemblait autour de chacun d'entre nous les meilleures équipes juridiques, les meilleures équipes d'avocats qui soient sur cette terre, aucune de ces équipes prises les unes séparées des autres, voire aucune de ces équipes toutes rassemblées même les unes avec les autres, ne peuvent être comparées à cet avocat céleste que nous avons en Jésus-Christ, qui a une sagesse irréfutable et qui a une connaissance incommensurable. Ça veut dire que nous ne pouvons pas atteindre la fin de sa connaissance. Ni nous, ni les sages de cette terre, ni nos accusateurs, même s'ils poussaient, ils poussaient, ils poussaient, ils poussaient les causes contre nous, il y aurait une limite qu'ils ne peuvent pas franchir, parce que leur connaissance et leur sagesse vient à terme. Et même s'ils inventaient des choses, notre Dieu, de par la vérité qui émane de lui, de par la vérité sans fin qui émane de lui, arriverait à contrecarrer et à contredire chacun des arguments qu'on élèverait contre toi, mon frère, ma sœur ou mon ami. Il dit, je vais t'annoncer de grandes choses. Je vais t'annoncer des choses qui sont cachées. Le terme caché ici, c'est le terme bazar. B-A-S-A-R. Bazar, B-A-S-A-R, toujours pour ceux qui prennent les notes, des choses qui sont cachées. Quand on parle de caché, on parle de quelque chose qui est retenu, qui est clôturé, qui est inaccessible, qui est fortifié, qui est secret, qui est mystérieux, qui est enfermé et qui est coupé de l'extérieur. C'est toujours dans cette pensée que l'avocat que nous avons possède tout ce qui est nécessaire pour nous défendre. Et je répète encore, pour que ça rentre bien en nous. Oui, sa sagesse est irréfutable. Oui, sa connaissance est incommensurable. Mais au-delà de cette connaissance qui est incommensurable, notre Seigneur est omniscient. Ça veut dire que non seulement il connaît l'ensemble des choses, mais il connaît l'ensemble des choses. Il connaît le détail de chacune des choses. Il n'y a pas un domaine qu'il ne connaît pas pleinement et totalement. Et je disais, dimanche, j'illustrais la chose par une définition que Montaigne, si je ne m'abuse, donnait de ce qu'était un gentilhomme. Montaigne, un auteur français classique, disait qu'un gentilhomme n'était pas quelqu'un qui avait la pleine connaissance de tout, mais qui connaissait assez de choses sur différents domaines pour pouvoir mener une conversation sur une multitude de choses. Ça voulait dire, l'important aux yeux de Montaigne pour être un gentilhomme, c'était pas de connaître tous les détails de chacune des choses, mais c'était d'en connaître un peu pour maintenir une conversation. Et pour Montaigne, c'était l'occasion, ou c'était ce qu'il disait comme important pour charmer la gent féminine. Il disait, aie de la conversation. Pas la peine que ce soit profond, en autant que ce soit sur un tas de sujets qui te permettent d'avoir l'apparence de quelqu'un qui est très cultivé, de quelqu'un qui connaît abondamment de choses. Notre Seigneur n'est pas comme ça. Notre Seigneur, non seulement il connaît sur beaucoup de choses, mais en fait, il connaît tout sur toutes choses. Ça veut dire que l'avocat qui le représente à tes côtés, l'avocat qui va se présenter pour te défendre lorsque tu es accusé, il connaît toutes choses. Il sait tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Il sait tout ce qui a été fomenté. Il sait toutes les faussetés qui existent, mais il connaît aussi toutes les vérités qui t'appartiennent ou toutes les vérités qui ont trait à toi. Ça veut dire que lorsque la défense va se présenter au barreau, lorsque la défense, au bâton plutôt, lorsque la défense va se présenter à la cour, elle va se défendre avec l'ensemble des notions, chose que tes accusateurs ne peuvent même pas prétendre avoir. Les accusateurs contre nous vont fomenter les choses, vont inventer les choses, vont tordre les choses, vont amener des demi-vérités. Le défenseur que tu as, lui, va se présenter avec une connaissance absolue sur toute chose. Rappelons-nous, Dieu est en train de lui dire, fais appel à moi. Et là, il est comme en train de vendre, entre guillemets, sans terme péjoratif, il est en train de faire l'étalage ou de vendre ses qualités d'avocat pour dire à Jérémie, regarde, tu n'as aucune raison de ne pas faire appel à moi parce que ma sagesse est irréfutable, parce que ma connaissance dépasse la capacité à être mesurée. Et de surcroît à cela, je t'assure que je connais toute chose, même ce qui est caché. Même ce que l'homme n'a pas vu, même ce que l'homme n'a pas entendu, même ce que l'homme n'a pas mentionné de sa bouche. Et je vous rappellerai cet exemple d'un prophète, la parole nous dit, je crois que c'est Jérémie, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, où le roi est fâché contre le prophète parce que même ce qui se dit dans la chambre à coucher du roi, l'Éternel le répète par la suite au prophète et le prophète l'étale sur la place publique. Ça veut dire que même les plans secrets que le roi pouvait avoir, le Seigneur le murmurait à l'oreille du prophète qui lui devait, parce que c'est un prophète et parce que c'est un héros, donc un proclamateur de la parole de Dieu, donc il se devait de le proclamer haut et fort. Alors, ce qui était caché, ce qu'on voulait cacher au peuple, Dieu le révélait malgré tout à Jérémie ou à d'autres prophètes. Ça veut donc dire que notre roi, notre avocat, lorsqu'il se présente pour notre défense, va posséder dans son dossier à notre égard tout ce qui est nécessaire. Il n'y a rien qui passe à côté du regard de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas et qui doit être utilisé pour ta défense. Et il termine en disant, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Le terme connaître, le terme yada, Y-A-D-A, Y-A-D-A, yada, connaître, qui veut dire une chose qui est apprise, une chose qui est perçue, une chose qu'on a appris à reconnaître, une chose qu'on apprend à discerner, une chose qu'on distingue d'une autre, une chose qui nous est révélée, une chose qui nous est instruite, une chose qu'on vient à connaître par l'expérience ou une chose avec laquelle on vient à être familier. On se familiarise avec une chose. Dans tout ça, on parle donc d'un processus d'apprentissage. Dieu lui dit, je connais même les choses que vous ne connaissez pas encore. Les choses que vous avez que vous avez besoin d'apprendre, moi, je les connais déjà. Alors ici, on continue dans les caractéristiques de notre avocat céleste. Une sagesse irréfutable, une connaissance incommensurable, une possession de l'omniscience, d'une connaissance totale de toutes choses. Et il dit qu'il va lui annoncer des choses que tu ne connais pas, donc des choses que lui n'a pas eu à apprendre, mais que toi tu as à apprendre. Ça veut donc dire que ton avocat a la science infuse et innée. La science infuse et innée. Dieu ne regarde pas une situation et il apprend cette situation. Non, Dieu connaît déjà toutes choses. Dieu ne regarde pas ta situation et ta vie et doit retarder un peu parce qu'il doit apprendre un peu plus de détails à ton égard. Il doit prendre connaissance un peu plus de ton environnement, de ton passé, de qui se présente contre toi, de comment les faits ont été portés. Non, Dieu a la science infuse, Dieu a la science innée. Et je rappelle, ce qu'on fait cette semaine, c'est de mentionner les qualificatifs de cet avocat superbe qui est à notre défense. Un avocat qui connaît toute chose et qui connaît toute chose de façon infuse. Il n'est pas obligé de passer par l'école. Il n'est pas obligé d'être enseigné sur quoi que ce soit. Il le sait déjà. De surcroît à cela, il parle aussi du fait qu'il y a des choses qui vont être cachées, mais moi je les connais déjà. Vous savez, lorsqu'on va en cour et qu'il y a deux parties qui s'affrontent, c'est un peu une guerre de plaidoyer, un affrontement d'items, un affrontement de pensées, de preuves qu'on confronte les unes avec les autres. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend la fin de notre plaidoyer pour lancer la plus grosse des bombes qui soit, pour marquer la pensée du jury qui est amené à donner un verdict. Donc tu vas avoir, ou on va avoir plutôt, l'avocat de la partie civile, de l'accusation, qui vient, qui fait son plaidoyer. À la fin de son plaidoyer, il lance une preuve, il lance un argument béton qu'il espère ne pas pouvoir être démoli par l'avocat de la défense. Suite à cet argument, l'avocat de la défense passe et c'est lui qui fait le dernier plaidoyer. Et dans ce dernier plaidoyer, il présente lui aussi des faits incontestables ou qu'il juge incontestables et il garde lui aussi des éléments secrets pour la fin de son plaidoyer pour influencer le jury. Dans notre cas, même les choses qu'on aurait gardées cachées, que les gens auraient gardé cachés pour les faire exploser au moment qu'ils jugent appropriés à notre rencontre, Dieu les connaît déjà. Et face à ces argumentaires que nous ne connaissons pas, face à ces stratégies que nous ne saisissons pas, face à ces traquenards que le diable essaie de tendre devant nous, que nous ne connaissons pas, nous savons toutefois que notre avocat les connaît toutes et chacune, toutes ces tentatives, toutes ces fomentations, toutes ces, ces stratégies que le diable veut élever contre nous, Dieu les connaît déjà et Dieu les pare déjà, ou Dieu les fait taire déjà, ou les rend déjà caduques. Voilà pourquoi, mon ami, voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu n'as pas d'autre personne vers qui te tourner que Christ. Lorsqu'on parlait du terme invoqué cette semaine, on disait que très souvent les gens ne veulent pas passer par cette étape de l'invocation par rapport à Dieu. Parce que invocation veut aussi dire se placer sous la tutelle, sous la juridiction ou sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de quelqu'un. Et on dit, ben là, je vais y perdre une certaine liberté, je vais y perdre une certaine autonomie, je vais dépendre. Et on pense que le Seigneur a besoin que nous dépendions de lui. On pense que le Seigneur a besoin d'avoir une main mise sur nous. Non, le Seigneur a déjà une main mise sur toi. Ta vie ne t'appartient pas. Sur un claquement de doigts, ta vie est terminée. Dieu décide que, à l'instant même, ta vie s'arrête. Il claque des doigts et ta vie est terminée. Tu n'as pas décidé quand tu allais naître, et à moins que tu ne prennes les choses dans tes propres mains, que tu décides malencontreusement de mettre fin à tes jours, le jour où tu vas décéder, d'une façon naturelle, ça va se passer parce que Dieu l'a décidé. Alors je t'amène, ou j'espère t'amener à comprendre une chose, que si Dieu t'invite à appeler ses services, si Dieu t'invite à invoquer sa présence à tes côtés comme l'avocat suprême, c'est pas parce qu'il a besoin d'autorité sur toi, c'est pas parce que c'est un despote, c'est pas parce que il est affamé de contrôle. Non, Dieu t'appelle à lui remettre ton existence parce qu'il sait qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour toi. Le roi David, qui était probablement l'homme le plus puissant de son époque, qui était probablement le roi qui a été le plus aimé, apprécié, louangé de l'histoire d'Israël, le roi David, qui était fort de caractère, savait se soumettre à Dieu, à un tel point où il va dire qu'il marche près du Seigneur et qu'il n'a pas peur à cause de sa houlette et de son bâton. Sa houlette qui le protège, mais son bâton aussi qui le ramène vers lui. Qu'il va vivre aussi dans le palais de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Le diable voudrait nous faire croire que nous perdons une autonomie lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Adam et Ève, et ça a marché. Lorsqu'il s'approche d'Adam et Ève, il demande, est-ce vrai que Dieu vous a dit que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir? Et Ève lui dit, répond, effectivement, Dieu nous a dit ça. Et le diable lui dit, mais n'en est rien. En fait, Dieu sait très bien que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme des dieux. Alors, ce que le diable est en train de leur dire, c'est que Dieu délibérément vous vole, Dieu délibérément contrôle votre vie, Dieu délibérément veut garder une mainmise sur vous, donc c'est de l'abus, c'est critiquable, c'est mauvais, c'est méchant de sa part, c'est le mensonge que le diable continue à perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Alors que la pensée de Dieu, c'est « Mon enfant, fais appel à moi parce que tu ne trouveras personne d'autre pour te défendre comme moi je peux te défendre. Mon enfant, viens sous ma couverture parce qu'il n'y a pas de plus grande et de plus merveilleuse couverture. » Et voilà pourquoi le psalmiste va aussi comparer la protection de Dieu, non pas comme ce geôlier qui nous enferme à double tour dans une prison, mais comme cette maman poule qui reçoit ses oisillons et qui les couvre de ses plumes. C'est une image tendre, C'est une image remplie d'affection. C'est une image remplie d'amour de cette maman, de cette poule qui prend les poussins et qui les protège de la pluie, qui les protège du mauvais temps, qui les protège même des ennemis ou des animaux de proie qui pourraient se lancer contre eux. Et c'est cette image que nous devons avoir de Dieu. Lorsque nous invoquons le Seigneur, nous nous plaçons sous ses ailes, nous nous plaçons sous sa protection, et c'est un acte d'altruisme profond de la part de Dieu, c'est un acte de passion profonde de la part de Dieu. Et je terminerai là-dessus, justement parce qu'on a utilisé le terme passion. Dieu nous a aimés à un tel point qu'il n'a pas hésité à donner son Fils pour qu'il meure à notre égard, qu'il meure à notre profit. Alors pensez-vous vraiment que Dieu, qui se fait homme, qui prend ta place, qui prend ma place sur la croix, qui accepte de donner sa vie délibérément pour des pécheurs comme toi et comme moi, penses-tu vraiment qu'après avoir témoigné cet amour, cette passion à ton égard, parce que ça prend de la passion pour mourir au profit de quelqu'un d'autre, penses-tu vraiment que ce Dieu passionné de toi, passionné de nous en tant que ses créatures, penses-tu vraiment qu'il voudrait maintenant nous mener comme un dictateur et comme un despote? Il nous aime comme un père aime ses enfants. Il nous aime comme la poule aime ses poussins. Il nous aime comme la maman aime ses enfants. Et ce Dieu qui nous aime te dit, mon fils, ma fille, si seulement tu faisais appel à moi, arrête de te fatiguer, arrête de te débrouiller par toi-même, arrête d'essayer de te sortir des problèmes par toi-même, je suis là, fais appel à moi. Et tu réaliseras que quand tu fais appel à moi, je suis toujours là. Quand tu fais appel à moi, tu fais appel à celui qui a une sagesse qui est irréfutable. Lorsque tu fais appel à moi, tu fais appel à celui, à ce Dieu qui a une connaissance incommensurable, sans limite, et une connaissance de toutes choses, de tous les détails, de toutes les particules de notions qui doivent être nécessaires à ta défense. Et celui qui veut te défendre, ce Dieu qui t'appelle à faire appel à ses services ou qui t'invite à faire appel à ses services, et le Dieu qui a la science infuse, qui connaît avant toute chose tout ce qui va se passer dans la plénitude même de tout ce qui va se passer. Notre Dieu nous appelle à nous tourner vers lui et à lui dire, papa, prends ma défense. J'arrête de me battre, j'arrête de gesticuler, je dépose tout entre tes mains. Fais justice, Seigneur. Prions. Seigneur, quel privilège nous avons de te connaître. Quel privilège nous avons de nous tourner vers toi, l'avocat par excellence, celui qui les dépasse tous, celui qu'aucun autre avocat de cette terre ne peut égaler, de quelque manière que ce soit. Je prie, Seigneur, que ma sœur, que mon frère, que moi-même, Seigneur, nous perdions l'habitude d'essayer de nous défendre par nous-mêmes, que nous perdions l'habitude d'essayer de nous dépêtrer dans nos mauvaises situations par nous-mêmes, mais que nous ayons ce réflexe dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments difficiles comme dans les moments plus agréables, de nous tourner vers toi en te disant, Seigneur, notre vie est mieux entre tes mains que si elle était entre nos propres mains. Notre vie est en sécurité auprès de toi, alors qu'elle est en danger lorsque c'est nous qui la contrôlons, et te remettre l'ensemble de notre existence, non pas parce que tu marches avec une cravache pour nous frapper à tout bout de champ l'image que le diable veut véhiculer, mais parce que tu es ce Père qui aime ses enfants, ce Père qui se donne pour ses enfants, cet avocat qui donnera tout ce qu'il a pour la sauvegarde, le salut et la réussite de ses clients. Alors Seigneur, c'est à toi que nous offrons notre vie. C'est vers toi que nous tournons le regard. Et comme David l'avait compris, je regarde vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et il confirmait, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui connaît tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui a trait avec les cieux, et celui qui connaît tout ce qui a trait avec cette terre. C'est de toi, et de toi seulement, et de toi uniquement, que vient notre secours. Alors Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre foi est placée en toi, et que nous te remettons notre vie, nous te remettons chacune de nos existences, pour que tu en sois le maître absolu. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de cet avocat, de ce sauveur qui est le nôtre et de ce Seigneur qui est le nôtre, Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se retrouver donc demain matin pour notre temps de prière et d'intercession. Demain, on est vendredi, donc c'est journée de jeûne et de prière. Il se pourrait que j'ai un petit contretemps demain soir. Donc demain matin, on va déjà prendre un bon moment dans la prière. On a fini notre enseignement pour cette semaine. Demain, journée de prière et de jeûne. Si je suis absent demain soir, je vous laisserai savoir de toute manière. Mais demain matin, on est au rendez-vous à 8h30 pour débuter dans la prière. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous vers Dieu. Profitez de sa sagesse incommensurable, de sa sagesse irréfutable, de son omniscience, de sa science infuse. Elle est là pour vous. Elle est là pour votre défense et votre bien-être. Ne vous privez pas de Jésus. Il vous aime. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.